On vous embarque.
Culture.
On y était.
Concert.
On y était.
Sortie.
On y était.
Spectacle.
On y était.
Festival.
On y était.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque.
Pour la suite du meilleur du festival René Caillé du film d'aventure à Mauzé-sur-le-Mignon, diffusé depuis ce début de semaine sur votre radio locale, nous consacrons aujourd'hui ce quatrième épisode entièrement au samedi soir du 11 novembre. Vous entendrez un pêle-mêle d'interviews des visiteurs et l'échange du réalisateur Mathieu Lelay face à son public, ainsi que des extraits du magnifique film nommé Yukon, un rêve blanc. Ce documentaire qui donne un portrait de Jérémy Villiers, photographe animalier professionnel, parcourant le Grand Nord à la recherche des animaux vivants dans la neige. Vous êtes là pourquoi ?
Je flash, contrôle des billets, les gens qui ont acheté les billets par informatique. Voilà. Donc, on les flash. Et on sait exactement où nous en sommes. Là, on sait que 75 personnes ont acheté un billet sur notre site. Et là, on les contrôle, voilà, tout simplement.
Il y en a qui viennent sans avoir...
Énormément.
Ah oui, là, c'est les tickets, là.
Petit papier. Voilà, tout à fait.
Vous avez compté déjà ?
Non, pas du tout.
On en reparle demain, on fait un bilan.
On fera le bilan.
Notre ami, là-bas... Lui, il a le compteur, et donc pour surveiller la jauge.
En fait, lui, c'est la police et nous, c'est...
Vous faites partie de l'association depuis pas mal de temps. Cette année, comment vous la sentez ?
Un bon cru.
Un bon cru ?
Très bon cru.
C'est les films aussi qui font ça, peut-être ?
Oui, aussi, absolument. Et puis, de plus en plus, au niveau de la communication, on fait de gros efforts. Et beaucoup de personnes encore ne sont pas au courant.
Vous êtes prêt à voir ce film ?
Ah oui, on est content de voir ce film.
C'est la première fois qu'on vient à Mauzé, ouais.
Mais en fait, on vient présenter un film, mais on est en même temps curieux de voir les autres, donc on en profite.
Bonsoir à tous. En 2020, nous découvrions dans un documentaire sur France 2 un incroyable photographe animalier, Jérémy Villiers. Ses photos, bien sûr, mais sa manière de voyager, son engagement, son exigence faisaient de lui un invité incontournable pour notre festival. Alors, il a fallu pratiquement 3 ans. 3 ans de mails sans réponse, de démarches infructueuses, parce que le personnage est assez difficile à joindre. Et puis, il a surtout fallu attendre la sortie du film Yukon, un rêve blanc, pour que, enfin, on puisse partager notre émerveillement avec vous. Alors, c'est grâce à Mathieu Lelay, le réalisateur du film, qui sera avec nous tout à l'heure en visioconférence. C'est grâce à Mathieu donc, que nous pouvons partager ce moment ensemble ce soir. Et Mathieu Lelay, c'est également c'est un réalisateur de documentaires chevronné. C'est aussi un passionné de nature. Et il a suivi Jérémy dans sa quête au fin fond du Yukon. Il a partagé ses affûts, il a souffert du froid et de la morsure du vent avec Jérémy, et il nous livre un portrait en images magnifique. Il est incroyable de découvrir à quel point la neige, la blancheur, confère un univers magique, et le commentaire du film le dit, on est subjugué par ces images, et nous espérons que... Vous aussi, vous partagerez cet émerveillement. Je vous souhaite un bon film. À tout à l'heure.
Photographier, c'est savoir observer, puis diriger le regard. Toutes ces émotions, en un seul instant. La neige me le permet. Elle va à l'essentiel. Finalement, je recherche le moment parfait, immaculé, où tout devient blanc. C'est à ce moment que je déclenche, quand j'ai l'impression que le résultat sera aussi brut que mon ressenti.
C'est vraiment comme une petite boule de porcelaine toute fragile dans le froid. Un petit ballon de duvet, là. Ils se mettent sous la neige, j'ai juste la tête qui sort, ils dorment. C'est vraiment un petit ange. J'ai des grosses engelures sur les doigts, ici, là. On peut rien faire quand il faut toucher les boutons. Il faut des plus petits gants. Et en 2 secondes, en touchant du métal et tout, tu brûles les doigts.
Sublime. Le renard a un tout petit point noir qui court dans la crème de neige, on dirait... La stracciatella, wow, c'est trop beau. Tout petit bout de chou. Quand tu vois un animal, tu te dis complètement que t'as froid. Tout gèle, mes cils collent, je vois plus rien, les boutons collent. C'est la première fois que je vois un renard noir comme ça. Là, je suis dans une zone où il y a eu des caribous.
Il y a des crottes.
Les renards, ils suivent ça, ils cherchent des endroits où les calmes vont enlever la neige, des endroits où il y a de la bouffe. Les conditions d'enneigement sont idéales. Alors je poursuis ma route, au-delà du cercle polaire arctique.
Là, je suis au milieu du blizzard, on voit que au piqué suivant, tellement loin de chez moi. Personne sur la route. Et c'est tout blanc quoi, il n'y a rien, tout du blanc. C'est cool, enfin, c'est interminable. C'est ça, cette sensation de braille, d'immensité sauvage.
Après plusieurs heures dans la tempête, j'arrive à Fort McPherson, dans les territoires du Nord-Ouest. Me voilà à plus de 1000 km au nord de Whitehorse. Je vais en profiter pour faire le plein de vivres et d'essence. Il est 11h et le jour peine à se lever. Un Première Nation m'indique qu'une colonie de grands corbeaux s'est installée à la décharge du village.
Décharge sous la neige, c'est fort.
Peut-être me mettre à l'affût cette nuit au-dessus. pour aller voir tous ces oiseaux noirs. C'est un peu la vie et la mort, les corbeaux, à chaque fois que tu les photographies. Et je trouve ça très fort. Ça va bien avec les couleurs du moment, très ternes. Enfin, les photos qui montrent un peu qu'ici, c'est la fin, quoi. C'est la décharge. Là, il y a des pots de caribou aussi là, qui n'ont pas été utilisés. Ouais, c'est le bon endroit pour faire un affût. Après 4 jours de tempête, la Dempster Highway a réouvert. Je vais pouvoir retourner au Yukon et me remettre sur la piste de la chèvre des montagnes. Sur ma route, soudain, des silhouettes à l'horizon. Les caribous. Incroyable. Des milliers de caribous. Toute la vallée est remplie de caribous là. On peut penser que pendant la tempête, ils étaient dans les canyons. Alors aller les voir. Mettons la tente plus bas là. C'est pas mal, mais la neige est très très profonde, il y a plus d'un mètre de neige. C'est la neige fraîche, donc tu peux pas skier dessus.
C'est marrant, ils sont juste là.
Quand j'évolue dans le Grand Nord canadien, je me sens inadapté, sans cesse martyrisé par les éléments. Paradoxalement, je suis attiré par cette beauté absolue, une nature à la fois accueillante et hostile, où j'ai l'impression de faire des choses simples et dans laquelle j'ai envie de vivre et de partager ce que je ressens. Plateau, les arbres ne poussent pas. C'est la toundra. Un écosystème qu'affectionne les caribous, pour le lichen présent sur le sol et les roches. Pendant la tempête, la neige est balayée par le vent. Ils parviennent ensuite à la gratter plus facilement pour accéder à leur nourriture. Je suis fasciné de voir les caribous. Ces grands migrateurs parcourent des milliers de kilomètres. Mais soudain, une motoneige, puis une autre, des chasseurs. Ici, il existe encore cette réalité. C'est un mode de vie différent du nôtre. Sur leur territoire, les Premières Nations dépendent des animaux sauvages. Monde déclenché, je ressens un mélange d'émotions. Il y a tout ce qu'engendre la nature sauvage. Le froid, la mort, la vie, la beauté, la tristesse. Ici, on a l'impression d'être à l'origine du monde.
Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Donc le public de Mosée te regarde. Moi je voudrais déjà te féliciter pour la... pour l'esthétisme saisissant de ce film. Je voudrais déjà poser une première question au réalisateur. Tu étais parti pour filmer effectivement Jérémy Gillet, mais aussi une chèvre des montagnes. Donc Jérémy, tu étais sûr qu'il soit là. La chèvre, tu n'étais certainement pas sûr. Comment articuler des contraintes de production, c'est-à-dire, bon, en fin de compte, du temps, donc un budget, avec l'incertitude de filmer effectivement la chèvre des montagnes.
Les tournages comme ça, avec une grande partie d'animaliers, c'est toujours l'incontrôlable, l'inattendu qui opère. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu particulier, ces tournages. On espère toujours avoir plus de temps que le temps dont on peut disposer, en fait. Donc là, en tout, au cumul, on a pu avoir 6 semaines de temps passé sur le tournage au Yukon. En deux fois 3 semaines, pour réussir en fait à approcher les animaux, à réussir à filmer, photographier cette chèvre des montagnes. Je pense que le point important en fait, c'était un maximum d'informations des gens locaux, des locaux. Donc que ce soit aussi bien les photographes qui peuvent être amenés à faire du terrain, à les connaître, à connaître leurs habitudes et les points de passage. Et puis aussi les chasseurs, comme on voit dans le film, ce sculpteur de Carcross, qui en fait connaissent parfaitement les zones où les trouver également. Donc en fait, c'est eux les vrais indicateurs et c'est eux qui nous mettent sur le droit chemin, on va dire, et qui nous font gagner un temps fou pour pouvoir finalement approcher les animaux et réussir finalement à les filmer, les photographier. Donc c'est un ensemble de choses et c'est aussi l'approche naturaliste. Sur le terrain, c'est apprendre à observer, à beaucoup écouter, comme le dit souvent Jérémy dans le film. C'est une grande part de patience et de connaissance aussi des animaux. Donc voilà, c'est la combinaison des deux, je pense, se donner le temps, la connaissance, et puis aussi les gens, les locaux. Voilà, c'est un ensemble de plusieurs choses qui fait qu'on réussit finalement à filmer des animaux sauvages, quoi.
On voit effectivement Jérémy en prise avec la morsure du froid qui a l'air terrible. Et donc toi, comment à côté, comment tu le vivais ?
Ben assez mal, hein. Pas toujours très bien en fait. Hein. Y a un nez que j'ai failli perdre. Heureusement qu'à un moment Jérémy me dit que mon nez tournait un petit peu trop blanc. Et puis il a fait le test de le toucher le bout du nez et je sentais plus rien en fait. Donc voilà, il a commencé à m'enrouler toute une écharpe sur le visage parce que dès qu'on laisse un peu de peau à l'air, eh ben, ça brûle et puis on ne se rend pas compte. Et voilà, et ça peut être très vite finalement dangereux. Donc le fait d'être deux, c'est vrai que ça aide pas mal, j'avoue. Et Jérémy a perdu pas mal aussi de la sensibilité au bout des doigts. Il a toujours des séquelles. Le bout des pieds, des fois aussi. Donc c'est vrai que les extrémités, comme ça, même avec des bottes pas fins canadiennes, une bonne paire de chaussettes en poil de yak, ça ne fait pas toujours le job pour bien rester au chaud. Donc on prend soin de nous l'un et l'autre. Et voilà, le fait d'être à deux, ça aide beaucoup aussi pour faire en sorte de pas justement que ça aille trop loin en termes de brûlure et d'engelure, quoi, surtout. Et voilà, donc... on essaie de se gérer au mieux et puis de se faire beaucoup de boissons chaudes, s'alimenter, se nourrir, c'est vraiment très important. Et puis il n'y a que 5 à 6 heures de jour dans nos journées de 24 heures. Le reste, c'est de la nuit parce qu'on est en hiver et donc très très peu de soleil dans cette saison. Et donc voilà, il y a une gestion du chaud, de se faire à manger, de bien se reposer aussi. Et on ne ferme pas généralement beaucoup l'œil de la nuit parce que voilà, le froid nous saisit toujours un peu. Et on se réveille par à-coup, quoi, en fait. Donc on fait des cycles peut-être une heure et demie maximum. Et puis on se réveille un peu et on n'est pas toujours, c'est pas toujours le grand confort. Mais on fait avec et on sait pourquoi on est là. Et on sait que la récompense, on la sent arriver, on sent qu'elle n'est pas loin. Et puis on aime être ça dans cette immersion sauvage. Moi, je vis à la montagne dans les Alpes et j'aime beaucoup voilà, l'immersion aussi, la rando et toute la pratique en montagne. J'aime beaucoup ça, donc voilà, on n'est pas là par hasard non plus. Quoi.
J'ai cru reconnaître, apercevoir dans les scènes de nuit, dans les scènes de ciel, une aurore boréale. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est bien vu. C'est, vous ne trompez pas. C'est tout à fait juste. Il y a même deux passages, je pense, où j'ai monté... des aurores, il y a un plan avec le bivouac classé près des caribous, quand il y a la nuit qui se passe avant de les retrouver le lendemain matin. Et puis il y a la traversée du lac sur la fin aussi, avant de retrouver les chefs de l'autre côté du versant. Il y a eu une belle nuit aussi avec des aurores, donc voilà, c'était des opportunités à saisir pendant le tournage. On n'était pas là pour ça, mais on s'émerveillait quand il y en avait. Et voilà, j'ai pas pu m'empêcher de faire quelques timelapses, quoi.
Bonsoir, je voudrais savoir quelle est la température à peu près que vous aviez.
Alors, il y avait des journées où c'était pas si froid que ça, c'est-à-dire qu'on avait un moins 15, moins 20, et au plus bas, on était plus dans un moins 40. Donc là, moins 40, tout devient vraiment très compliqué, notamment pour nous, évidemment. Manipuler la caméra, le boîtier, prendre des photos et tout ça, on est obligé d'enlever les moufles, les surgants, et donc on a juste plus que les petits gants tout fins, et c'est là qu'on se crame les doigts, et pour le matériel aussi, lui-même, c'est très compliqué. Moi j'avais une caméra vidéo, et en fait elle faisait presque de la survie aussi, parce que sous ces températures-là, on a l'impression qu'elles vont arrêter de fonctionner, quoi, parfois, donc... elle faisait un vacarme pas possible, donc pour le son aussi, ça devenait compliqué de prendre du son. Donc ouais, tout devient très compliqué, je dirais en dessous de moins 30. Mais on n'a pas eu tout le temps des moins 30 tous les jours quand même. C'était des fois un peu plus chaud, et un peu moins froid, on va dire. Quoi.
On a demandé quel était l'appareil photo de Jérémy.
Oui, c'est du Canon pour les connaisseurs, Canon 5D Mark IV, 1DX Mark II aussi, à l'époque, parce que du coup le tournage a eu lieu il y a déjà 2019-2020, voilà, les deux années chevauchées sur l'hiver 2019-2020. Donc depuis le matériel a évolué encore chez Canon, hein, et puis chez tous les constructeurs, donc les fabricants, donc mais voilà, c'était ces boîtiers là et moi j'avais une caméra vidéo Canon aussi, donc voilà, on était tout complet Canon qui sont bien pour tout ce qui est tropicalisé, contre l'humidité aussi, tout ça, ça c'est du bon matos qui tient bien dans ces conditions un peu extrêmes, quoi.
Je voulais savoir, les chasseurs, là, à un moment, on les voit, ils vous prenaient pour des extraterrestres, ou est-ce qu'ils arrivaient à comprendre vos objectifs, si vous avez un peu échangé?
Oui, on a échangé, donc c'est pas forcément toujours monté dans le film, mais ouais, on a échangé. Alors, sur la scène avec les chasseurs, je pense qu'ils étaient plus hyper pudiques, en fait, sur ce qu'ils faisaient, et ça les dérangeait si on n'était pas loin d'eux. Il y a eu un moment où ils étaient plutôt un peu bord route, et le fait qu'on s'arrête, qu'on regarde un peu ce qu'ils faisaient avec quelques caribous tués, ils aimaient pas trop. Donc on sentait qu'il fallait un peu les laisser dans leur activité et observer à distance, garder de la distance et juste voilà, respecter ce qu'ils faisaient et pas trop des fois s'approcher en pleine activité. Après, on a eu quand même pas mal de connexions dans le village. Là, on est resté coincé avec la tempête quand on est monté très au nord. Dans les territoires du Nord-Ouest. Et là, c'était vraiment sympa, on a eu pas mal d'échanges, j'en ai monté un petit passage à la station, justement, je trouvais marrant le petit clin d'œil que Jérémy était là pour en shooter, mais avec un appareil plutôt qu'un fusil, voilà, c'était un petit clin d'œil. Mais il y a beaucoup de respect voilà, envers la manière que ces gens-là ont, avec la relation qu'ils ont en fait avec le vivant, beaucoup de respect pour leur activité, et puis on se rend compte que eux ils ont absolument besoin de cette faune, ils en dépendent, et ce qui est beau c'est cette interaction, vraiment cette harmonie en fait avec le vivant et ce grand respect. D'ailleurs l'animal est souvent sacré dans ces territoires là, donc ça veut tout dire, quoi.
Il est lourd ou pas l'équipement à trimballer?
Ouais, c'est quand même assez lourd, en fait, sur des débuts d'expédition, quand on part pour plusieurs jours, en fait, pour tenir dehors plusieurs nuits de rang. Le sac avoisine 30-35 kilos. Donc, c'est, en fait, on progresse pas bien, on a mal aux épaules très vite, c'est pas du tout confort. Donc, on fait 100 mètres de dénivelé en 1 heure, 2 heures. On braque en brasse de la neige jusqu'aux hanches. Donc, non, c'est vraiment pas très confortable, mais la stratégie qu'on employait, c'était que, une fois qu'on trouvait un endroit pour poser le camp, on installait la tente, le matelas, le sac de couchage, le réchaud, etc. Et ça restait en place dans la tente. Et nous, on partait plus léger, avec vraiment juste l'équipement, de quoi filmer, de quoi photographier. Et voilà, ça devenait tout de suite beaucoup plus... on était beaucoup plus léger, beaucoup plus mobile pour se déplacer. Et donc, voilà, ça devenait possible vraiment de travailler, parce que sinon, avec un sac de 30-35 sur le dos, c'est juste pas possible de réussir à faire des images. Donc, c'était un peu la stratégie employée sur le terrain.
Moi, je voulais savoir, quand vous éloignez de votre tente, de votre camp, vous allez jusqu'à combien en périphérie, comme ça? Et au retour, est-ce que vous avez jamais eu une mauvaise surprise? Est-ce que les animaux, pendant que vous n'êtes pas là, est-ce que par l'odeur, par quelque chose, ils pourraient être attirés et vous faire quelques petits dégâts? Est-ce que ça vous est arrivé, des trucs comme ça?
Oui. Alors déjà, quand on s'éloigne jamais vraiment énormément à la journée, parce que quand on installe le camp, on sait déjà qu'au petit matin, quel endroit on va aller, on sait à peu près combien de temps d'approche on a. Et généralement, vu qu'on dispose, comme je disais un peu plus tôt, de très peu de temps de jour dans nos 24 heures, on essaie d'optimiser au maximum. Donc ça demande quand même de bouger un peu à chaque fois le camp. Donc on reste des fois 2-3 nuits à un endroit et on travaille en étoile après. Et quand on travaille en étoile, je veux dire qu'on s'éloigne peut-être aller à une heure, 2 heures de marche, on va dire, à peu près dans la neige, quoi. À peu près, grosso modo. Donc c'est pas trop éloigné, mais le temps de déplacement est quand même relativement long, parce qu'on, suivant l'enneigement, on brasse tellement de neige qu'on a le pas un peu lourd et on a vraiment du mal à se déplacer, contrairement aux animaux. Et donc voilà. Et pour l'aspect des animaux avec lesquels on peut entrer en interaction, il n'y a pas eu de mauvaises surprises en rentrant au camp. Il n'y a pas eu de rencontres un peu spéciales. Si ce n'est quand même des yeux, des fois, qui brillent dans la nuit. Donc, on peut se demander quand même si c'est pas un grand prédateur, un loup, ou même peut-être un puma, je sais pas, en fait, des fois, un cougar, là. Peut-être, après, on n'a pas eu de rencontres, disons, dangereuses, ou des mauvaises surprises au camp. Mais je pense que, ouais, ça peut arriver. Après, les ours, les grizzlies hibernent. Donc, du coup, il n'y a pas eu de rencontre avec eux, on n'a pas vu de traces non plus. C'était vraiment au cœur de l'hiver, donc ils n'étaient pas encore sortis. On a toujours été relativement à distance, on a pu avoir la chance de voir plusieurs fois le lynx. Et puis un loup aussi, à un moment, traverser la forêt pas très loin de nous. Donc voilà, des moments magiques. Mais sinon, non, pas d'autres anecdotes avec les animaux particulières.
Dans toutes les scènes il y a des photos qui sont prises, c'est assez flagrant que la vidéo est visuellement hyper différente de ce que le photographe va produire comme photo. Lui, il a un parti pris qui est quand même assez bien cadré, la neige, tout, beaucoup de blanc. Et vous avez c'est quand même complètement une autre image. Parfois, on pourrait croire que la photo a été prise à un autre moment, peut-être sur la colorimétrie aussi, il y a un travail qui est fait dans la photo qui est différent. Et du coup, quel était votre parti pris? Est-ce que volontairement il fallait se différencier du style photographique? Si vous avez fait un film avec un photographe qui a joué lui-même son style, et comment vous avez trouvé un style en parler?
L'objectif de ces réalisations, parce que j'ai fait quelques portraits de photographes, c'est pas le premier, c'est d'essayer de retranscrire au mieux l'univers du photographe. Donc pour ça, je vais vraiment comprendre la démarche du photographe et comprendre sa manière de travailler, aussi bien au niveau de l'approche qu'au niveau de la technique. Donc mon objectif, c'est quand même d'essayer de matcher au mieux le rendu de l'image. Et souvent, enfin parfois en tout cas, ce qui se passe avec les photographes, c'est qu'ils peuvent être eux-mêmes amenés à faire des images. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Jérémy, c'est-à-dire qu'il a une optique 600 mm, Donc c'est vraiment un gros téléobjectif. Moi, j'avais aussi des gros téléobjectifs, mais lui avait ce téléobjectif fixe qui est très bien pour la photo. Et du coup, il avait cette proximité des fois avec les animaux, parce que moi, je prenais souvent plus de recul pour filmer le photographe avec l'animal des fois. Et donc, il y a plein de fois dans le film des plans animaliers, en fait, où c'est Jérémy, au lieu de prendre une photo, qui switch en mode vidéo pour avoir un plan vidéo qui va avoir un rendu et des réglages finalement très identiques à ses photos. Après, s'il n'y a pas le même rendu exactement, c'est parce qu'en photo, on n'a pas tout à fait les mêmes paramètres, on va dire, pour traiter une image. Et c'est très compliqué en vidéo, finalement, d'avoir un rendu qui va être similaire à un rendu photo. On n'a pas le même nombre de pixels, on n'a pas les mêmes valeurs quand on expose aussi l'image. Parfois, en photo, Jérémy surex aussi beaucoup ses photographies pour avoir un blanc très, très blanc, en fait, très épuré. Alors qu'en vidéo, on aura tendance à pas vouloir cramer l'image et surexposer justement pour garder justement des détails, etc. Sinon, ça donne vraiment un aspect assez désagréable à l'image qui est pas forcément toujours très jolie d'avoir de la neige cramée en fait. Donc Jérémy aussi est toujours en gros plan. Donc ça aussi, c'est un aspect qui fait que sur des plans larges, en fait, il n'aurait jamais se rendu là parce qu'il n'y aurait pas de la neige partout. Il aurait tout le temps des arbres, un peu de montagne dans ses images. Et là, en fait, il n'a que de la neige. Donc, il arrive à avoir toujours un premier plan neigeux. Et parfois, le ciel qui se confond avec la neige parce qu'on appelle ça le whiteout, quand le ciel est lui-même aussi tout blanc, plein de nuages. Et voilà, donc c'est des conditions en fait particulières qui font que son rendu photo est très particulier. Et c'est moi cette signature-là qui m'a vachement fasciné et attiré pour faire ce film. Mais après, c'est très compliqué d'avoir un film tout blanc en fait. On ne peut pas filmer le paysage, les rencontres humaines avec une signature d'un photographe comme ça, où ça va chercher très loin avec des détails très précis, et surtout, comme je disais, des conditions météo vraiment très particulières qui n'ont pas tout le temps lieu, en fait.
Mathieu, bonsoir, c'est Olivia des Rendez-vous de l'Aventure dans le Jura.
Oui, bonsoir, salut. Olivia.
Salut, je voulais déjà te remercier, parce que j'ai revu ce film, tu le sais, avec grand plaisir, j'aime beaucoup ton regard. Je voulais revenir sur quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de te demander. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas le premier film où tu vas filmer un photographe. Il y en a eu un autre avant que j'aime beaucoup aussi, où tu vas filmer les félins en Afrique. Est-ce que tu tires un parallèle entre les deux environnements et pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a une raison particulière qui fait que tu suis des photographes animaliers?
Alors c'est vrai que les environnements dans lesquels je suis amené à travailler, déjà merci pour ton intervention et ta question Olivia, les différents environnements dans lesquels je suis amené à travailler peuvent être très, très différents, même aux antipodes finalement. Et moi ça c'est un peu d'importance, j'aime beaucoup quand même l'hémisphère nord, le froid, mais parfois un peu de diversité, d'être attiré par l'Afrique et des pays plus chauds. Pour moi, ça, c'est tout aussi attirant parce qu'il y a un vrai parti pris d'un photographe qui va être amené à œuvrer dans son art d'une certaine manière qui est très atypique, qui est propre en fait à son regard, à sa manière de voir le monde animal. Et pour moi, c'est ça qui est ultra stimulant, ultra fascinant, c'est de voir des gens poser un regard qui est unique et qui est très personnel. Souvent poétique, c'est la poésie aussi qu'ils arrivent en fait à retranscrire dans le travail qui m'attire. Et par exemple avec Félin Noir sur Blanc, avec Laurent Baheux, c'est vrai que on était dans la grâce de l'animal, avec beaucoup de portraits serrés de la faune africaine en noir et blanc. Et pour moi c'était un parti pris avec ce film, parce qu'il fallait après réaliser un film qui retranscrive au mieux le travail de ce photographe qui est en noir et blanc. Et du coup il y avait le parti pris grâce à Ushuaïa TV qui s'est dit bah ouais pourquoi pas, go, on fait un film en noir et blanc. Donc c'était génial d'avoir ce parti pris artistique, et c'est pour ça que moi j'ai tout de suite accepté puisqu'on est venu me proposer ce projet, et j'ai pas hésité une seconde parce que je trouve que c'est très très atypique, très audacieux. Et c'est souvent ces challenges aussi pour moi qui sont attrayants et intéressants, c'est que ça... En fait, j'ai beau faire plein de portraits de photographes, et à chaque fois, je trouve que c'est très, très unique, très diversifié, et à chaque fois ça m'amène à découvrir voilà, une approche différente, un regard différent et plein de connaissances aussi naturalistes autour de, des animaux avec lesquels on interagit dans ces lieux incroyables, quoi. Donc c'est une véritable chance, je vois ça comme une chance de pouvoir voyager par procuration grâce à ces photographes-là, et puis je me fais vraiment plaisir, j'en prends plein les yeux, et puis c'est une vraie passion pour moi, en fait, après de partager ces films-là, pour essayer de retranscrire un maximum d'authenticité, en fait. C'est l'authenticité que j'essaie de retranscrire après dans ces films. Du coup, ça donne des films très, très différents les uns les autres, puisque je pense que ça reflète la personnalité de chacun d'entre eux, en fait, quoi. Au maximum, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, quoi, de rendre le plus authentique possible ces films.
Avant de voir le film, on a eu une petite introduction où l'animateur nous a parlé du photographe qui n'était pas là ce soir, qui ne serait pas non plus en visio. On a compris qu'il avait une personnalité un peu à part. Et du coup, j'étais agréablement étonnée de le voir se livrer comme ça dans votre film, parler de ses sensations, de ses émotions. Et est-ce que ça a été une petite difficulté au départ? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Comment ça s'est passé?
Oui, oui. Eh bien, en fait, Jérémy et moi, on se connaît depuis l'année 2013. Donc, c'est vrai que du coup, je vous avoue, ça aide énormément pour qu'un photographe et une personne comme Jérémy, qui est comme un animal, hein, qui passe son temps dehors. À l'heure actuelle, il doit être en train de dormir dehors, là, j'imagine. Et du coup, c'est vrai que ça aide énormément pour qu'il puisse se livrer. On se connaissait déjà depuis toutes ces années-là. On a eu un petit film qu'on a pu réaliser ensemble dans les Alpes pour Aster, le conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, pour sensibiliser les photographes animaliers au dérangement des vautours, des espèces rupestres qui nichent en falaise ici dans les Alpes, comme le gibet barbu. Et du coup, de ce projet-là, en fait, on a vraiment bien accroché. On a eu une belle gymnastique tous les deux à travailler ensemble, et on voyait qu'il y avait une belle complémentarité. Et du coup, j'ai dit à Jérémy, il faut absolument qu'on parte ensemble, que je fasse un film sur ton univers. Je voyais qu'il avait pris cette signature-là, qu'il s'était vraiment passionné pour le blanc, et avec beaucoup, beaucoup d'expéditions dans le passé, que ce soit en Norvège ou justement au Canada. Et puis de là, de fil en aiguille, on a discuté avec une production, avec Arte, et puis il s'avère que c'est la chef des montagnes qui a gagné au petit jeu de qui on va essayer d'aller chercher, d'approcher, parce que c'est une espèce qui est assez méconnue finalement par chez nous, puisqu'elle est endémique des Rocheuses canadiennes. Donc il y avait pour Arte, vu que c'est la case découverte de la chaîne, il y avait vraiment l'aspect découvert d'une espèce assez méconnue par chez nous, et qui fascine le photographe puisqu'elle est toute blanche pendant l'hiver, donc voilà, ça faisait sens. Mais c'est vrai que du coup, le fait qu'il se livre autant, c'est parce qu'on se connaît beaucoup, on a eu ce projet avant ensemble, on a fait beaucoup de sorties dans les Alpes ensemble aussi, juste par plaisir, pour passer du temps ensemble, et ça aide énormément, ça aide beaucoup. Je pense qu'il pourrait peut-être pas partir avec tout le monde, et c'est vrai que du coup, le fait de savoir avec qui il se lance dans cette aventure, ça a beaucoup aidé, et c'est vrai qu'on a partagé à chaque fois, deux fois, trois semaines, on était tout le temps ensemble, quoi. Bon, après moi j'avais ma tante, du coup on la voit jamais, mais je suis juste dans les mêmes types de configurations qu'on voit à l'image avec Jérémy, sauf que moi voilà, je suis autonome, j'ai ma propre tante, mon petit couchage aussi, et puis après on partage le dîner ensemble autour d'un réchaud, et on pense toujours à faire fondre de la neige, donc c'est des petits moments conviviaux. On fait un petit point sur la stratégie du lendemain, on essaie d'optimiser un peu notre énergie, nos forces. Et puis voilà, donc c'était super, on est partis amis, et heureusement on est rentrés amis, quoi. Merci à vous.
Il y a un livre que vend Muriel, qui est le livre des photos. Ce livre, vous l'avez vu au début du film, je crois. Il feuilletait des photos. Donc ce livre, il est en vente chez Muriel.
Est-ce que ça vous a plu?
Bien sûr, bien sûr.
Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée.
Parce que je suis dans l'organisation du festival. Et en fait, j'avais déjà vu le film.
C'est vous qui l'avez choisi d'ailleurs. Est-ce que ça vous a plu ?
Oui, énormément.
Qu'est-ce qui vous a plu ?
L'authenticité, vraiment la particularité du photographe et puis l'échange avec le réalisateur, c'était vraiment exceptionnel. Parce que ça nous permet effectivement de comprendre et de mieux d'entrer dans un monde que moi je ne connais pas du tout, par exemple. Et de voir un regard de photographe comme ça, avec un objectif complètement fou et un sens de la poésie et de l'artistique qui est exceptionnel. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça, enfin, c'est pouf, ça donne plein d'émotions. En fait.
Vous êtes émue ?
Oui, 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 beaucoup. Je trouve que c'est très très fort quand même.
Ça vous donne envie d'aller à la montagne ?
Moi, j'aime pas beaucoup le froid, donc j'admire d'autant plus ce genre de projet parce que je ne me vois pas du tout dans cette situation. Mais d'autant plus, c'est un privilège de pouvoir partager ça, c'est vraiment bien.
Les animaux, vous en êtes sensible ou c'est la beauté de justement des paysages ? Qu'est-ce qui vous a ému ?
Les animaux, bien sûr. Enfin, voilà. Avec tout ce dont, heureusement, on prend un petit peu conscience en ce moment, des films comme ça, c'est indispensable.
Vous reviendrez ?
Ah oui.
Est-ce que ça vous a plu ?
Oui, très bien, très très bien.
C'était tip top. Ouais, génial, vraiment génial. Je suis photographe amateur moi-même et là, c'est époustouflant, super. Bah, moi, c'est plutôt l'environnement de Sévrien et le Marais Poitevin notamment, avec les oiseaux, les mammifères, enfin tout ce qui peut se présenter, quoi.
Dans notre territoire, notre cher territoire.
Exactement.
Vous ferez peut-être partie du festival l'année prochaine, vous nous présenterez...
Non, non, je ne suis pas à ce niveau.
Ça vous a plu ?
Ah, énormément. Vous pouvez recommencer. Hein.
Vous reviendrez alors ?
Oui, 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 promis.
Est-ce que ça t'a plu ?
Oui, trop bien.
Tu reviendras ?
Oui, j'espère.
Ah non, je ne suis pas déçu. Non, non. Il a froid le micro ?
On ne sait jamais parce que j'ai vu de la neige moi ce soir. Et quand
oui,
même.
C'est pour ça, c'était génial. Hein. Ouais. Extra.
Ça vous a plu ?
Absolument. J'ai même presque à un moment donné dormi, c'était agréable.
La plénitude du paysage ?
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le repos, c'est le blanc. C'est, ouais. Ah bon, moi, j'ai l'habitude d'y aller, sur la neige l'hiver.
Peut-être pas au Canada ?
Non, pas au Canada, effectivement. Mais déjà chez nous en France, c'est pas mal. Et puis une fois tous les 10 ans, quand il neige dans le Marais Poitevin, c'est bien aussi.
Magnifique. Très belles images.
Est-ce que ça vous a donné envie d'y aller ?
Non. Je vais mettre une bûche dans la cheminée chez moi en rentrant parce que j'ai froid rien que de voir les images.
Oui, 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 c'est l'effet que ça fait.
Oui, très bien. C'est vraiment... Le film est magnifique. Les photos sont superbes, vraiment. Il n'y a rien à redire de plus. C'est magnifique.
Est-ce que vous appréciez ce festival dans l'ensemble ?
Ah oui, 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 oui. Ben, nous, ça fait 25 ans qu'on vient, donc... On n'est pas d'ici, mais on est à le village à côté, là, Voué. Et donc, tous les ans, on vient. Donc, parce que, bon, les organisateurs le méritent bien. Et je crois que, bon, ils font ce qu'il faut. Bon, voilà. Donc, et tous les ans, c'est toujours le même plaisir.
Vous venez demain ?
Oui, bien sûr. Demain soir, parce qu'on voit l'explorateur Monsieur Clos. Et ça fait au moins la troisième fois qu'on le voit ici.
Ah, vous l'appréciez celui-là ?
Ah oui, oui, beaucoup. Beaucoup, disons que c'est une personne qui a du mérite, sachant ce qu'il était au départ, sachant ce qu'il a fait en Amérique du Sud, sur la cordillère Darwin. Et puis là, donc encore une autre expérience.
Ah, des donc vous allez découvrir.
Du froid. Hein, oui, 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 on va le revoir avec plaisir.
On se dit à demain alors ?
Bien sûr, à demain.
Le cinquième et dernier épisode consacré à ce festival est diffusé prochainement sur Pigouille Radio. Ne le manquez sous aucun prétexte, car il vous livrera le récit du dimanche 12 novembre des 4 derniers films déroulés sous nos yeux et nos oreilles. À bientôt, amis aventuriers.
On vous embarque ?
On vous embarque ?
On vous embarque !
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 Culture !
On y était !
Concert !
On y était !
Sortie !
On y était !
Spectacle !
On y était !
Festival !
On y était !
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
Pigouille Radio vous rencontre des événements du Marais.
On vous embarque ?